Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Donc, acquisition pour la chaîne de café Second Cup.
Oui, Second Cup, Patrick, pour toi, est-ce que ça a la même signification au travers les décennies?
c'est drôle, hein? Moi, quand on parle de café, je pense jamais à Second Cup. C'est plate, là, mais je vais chez Starbucks. Mais à Montréal, on est bien servi. Il y a plein de petits cafés là, qui sont, pour moi, là, meilleurs que Starbucks.
Indépendant, mais à une autre époque.
Meilleurs que Starbucks, puis c'est quoi, Second Cup? Second Cup,
oui. Mais il y avait à l'époque, tu sais, quand je suis rentré à Montréal en 1999, on nous parlait des fameuses infusions à la tasse de vanoute révolutionnaire et Second Cup était dans le marché. Tu sais, Starbucks c'était pas encore un joueur dominant ici, là. C'était vraiment pas là par rapport à aujourd'hui, donc c'était pas notre réflexe. Et Second Cup avait une espèce de bonne position dans le marché. Là, on fait une acquisition de marché du café d'Ottawa, Bridgehead Coffee, donc près de 20, ce que ça, je pense c'est 19. Pour 6 millions en cash, 3,5 millions en actions. Ça, évidemment, quand tu fais une acquisition avec des actions en contrepartie, en partie, c'est que la personne ou l'entreprise acquise juge que tu vas pouvoir progresser. Puis quand on regarde les actions de Second Cup, c'est dur de ne pas progresser. L'action a tellement descendu depuis 2004. On est passé de près de 12 $ à 1,42 $.
Ah oui.
Donc oui, ça a vraiment diminué Second Cup. On avait comme abandonné un peu les cafés. Pendant plusieurs années, il y avait vraiment des cafés qui étaient, on pourrait dire, qui laissaient à désirer. On a revampé l'image, on a revampé le tout, le logo, on a vraiment, et on s'est réimplanté. Écoute, il y a encore des pertes là pour le trimestre, mais ce qui est intéressant, c'est voir la diversification. Second Cup perd un peu d'argent dans le dernier trimestre en exploitation, mais on dit, on va s'en aller vers une société mère qui va changer de nom. Ça va s'appeler Aegis Brand, puis on va se diversifier. On va aller, oui, dans le Second Cup et les autres marques plus locales. Donc, au lieu de vouloir étendre Second Cup partout, on va faire des acquisitions un peu comme Molson puis Labatt-Fond. Tu sais, au lieu de créer des nouvelles marques, ils ont fait des acquisitions de microbrasserie. On les met dans notre portefeuille. Et maintenant, quand les gens voient une bière de microbrasserie, pensent que c'est une microbrasserie, ben non, c'est Labatt.
Mais comme Molson qui a acheté la microbrasserie, le trou du diable, là, à Mauricie.
Ou je pense que c'est Labatt qui a fait une association avec Archibald à Québec. Il y en a plusieurs, là. C'est pour offrir un portefeuille parce que t'as même mis sur des pompes. Mais tu vois, au niveau de ça, tu sais, quand tu compares, c'est qu'une COP avec des états financiers de quelques millions et que t'arrives après ça à Starbucks, puis tu sais, juste te donner une idée, là, pour, tu sais, le nombre de magasins ouverts au 30 septembre 2018, là, on était à près de 14 000. Et quand tu regardais les revenus, si tu vas au 30 septembre, des revenus pour l'année financière, on était à près de 20 milliards de revenus et 4,5 milliards de bénéfices nets. On est ailleurs. Tu sais, on est rendu distribué dans les épiceries. On a vraiment vendu même le nom ou la licence pour vendre dans les épiceries. Donc, Starbucks, c'est un rouleau compresseur. Mais les amateurs de café, Patrick, aime beaucoup, tu sais, les petits cafés de coin de rue. Puis il y a des chaînes qui sont plus régionales, si tu veux.
Ben c'est ça. Puis ça finit par gruger les grosses chaînes. Mais y a-t-il quelque chose qui se passe dans le monde du café? Parce que là, tu me parles de Second Cup qui en arrache. Tu sais, je sais que la chaîne Tim Hortons a fait une coupe de choix qui n'ont pas plu aux clients. Y a-t-il quelque chose qui se passe dans le café?
Ben, il y a beaucoup de concurrence, tu sais. Si tu demandes à quelqu'un, « Hey, qu'est-ce que t'aimerais ça faire comme ton commerce? »« Ah, moi, j'ai une super bonne idée. Je vais me lancer dans un café troisième vague. » Là, tu pars à rire, puis tu dis, ouais,
ça, c'est des petits cafés branchés, là.
Ouais, exactement. Puis tu sais, mais là, tu vois, Second Cup, on va aussi se diversifier dans le cannabis. Donc, tu vois, tu sais, t'as un point de vente. Tu pourrais très bien avoir des succursales de cannabis aussi, puis c'est de la distribution. Donc, tu sais, on va voir, là, mais tu vois très bien que, tu sais, avoir une grosse marque rouleau compresseur comme Starbucks, il y en a. Mais il y a beaucoup de petits joueurs aussi qui jouent dans un marché beaucoup plus de niche.
OK. Et Canadian Tire dans le viseur là, d'une stratégie agressive en bourse.
Oui, parce que dans le fond, il y a des vendeurs à découvert. Ici, c'est Ben Axler, le fondateur d'un groupe d'investissement, là, Spruce Point Capital. Excuse-moi, ça se prononce bien. Écoute, lui, dans le fond, il fait comme il a fait avec Dollarama. C'est que tu t'en vas publiquement, tu es américain, tu pointes une entreprise canadienne. Puis là, tu dis, hey, je regarde le modèle d'affaires, là. Canadian Tire, ils ont de l'air endettés, là. Puis je trouve que leurs pratiques comptables sont un peu agressives. Puis je trouve que, dans le fond, là, la valeur pour le client, l'investisseur sera peut-être plus là. Donc, moi, je pense que ça va planter. Mais t'as une position qui est basée sur le fait que l'action plante. C'est-à-dire que tu sors une analyse en disant, Canadian Tire est overpriced de 50% parce que je pense qu'ils sont surévalués pour telle raison. Mais en même temps, t'es un vendeur à découvert. Toi, tu vas profiter de la chute du titre parce que tu as promis de vendre à un certain prix dans le futur et tu planifies faire un gain en misant sur la baisse du titre. Donc, veux, veux pas, t'es en conflit d'intérêts. Mais tu sais, Canadian Tire, il y a quelque chose que les gens, des fois même aux États-Unis, comprennent moins. C'est que c'est un modèle d'affaires bien spécial. T'as des marchands qui ont une certaine latitude dans ce qu'ils peuvent vendre. C'est pour ça qu'au Canadian Tire, je sais pas si t'as déjà vu, Patrick, là, t'as plein d'affaires à vendre par rapport, comme tel que vu à la télévision, des restants de l'eau ou des livres, des restants de l'eau. Mais c'est parce que le marchand a le droit d'ajouter du stock qui est pas officiellement Canadian Tire.
Okay.
Donc, ils ont certains produits, ils ont certaines obligations, mais ils peuvent aussi mettre autre chose. Et ça fait qu'un marchand Canadian Tire est peut-être beaucoup plus proche de sa clientèle que les marchands américains peuvent comprendre. Mmh. Oui, il y a de l'endettement. Oui, il y a eu des acquisitions. Puis oui, l'action a déjà été plus haute. Là. Mais quand tu regardes le modèle d'affaires de Canadian Tire, je sais pas. Il y a comme un gros sentiment d'appartenance. On fait beaucoup d'argent, faites-en pas. Là, il y a de l'argent avec la division financière, il y a de l'argent, il y a du bénéfice net en masse. Mais on semble oublier sur les marchés l'attachement du Canadien à son Canadian Tire.
Bon, oui, t'as jamais si bien dit les gens aiment leur Canadian Tire. Et c'est ici qu'il faut que je t'arrête, même si je t'aime beaucoup.
OK, t'iras au Canadian Tire voir si t'es capable de résister aux spéciaux perpétuels, voir.
On se retrouve lundi parce que t'as congé le vendredi, coquin.
Oui, salut.
OK, ciao. 17h33 au retour, les accros de la télé vont nous parler de Infoman, qu'on reçoit par ailleurs à 18h.